Bonjour à tous. La grande table en format estival jusqu'à la mi-août. Plus de culture, mais surtout plus d'aventures, de découvertes. Et d'ailleurs, c'est chaque jour entre 12h45, 50 aujourd'hui et 14h. Aujourd'hui, le sens ou l'essence, plutôt en voyage, un voyage olfactif d'abord, avec l'artiste plasticienne Eva Jospin et le parfumeur Julien Rasquinet. Puis autour de 13h20, un voyage pictural avec le peintre Turner et le commissaire d'exposition Pierre Curie. Le musée Jacques Marandré présente actuellement jusqu'au 11 janvier l'exposition Turner, peinture et aquarelle. 13h50, enfin, François Sureau, l'auteur de L'ordre du temps, remonte la Seine. C'est un récit fleuve à suivre tout l'été sur franceculture.fr. Bienvenue à tous, on est ensemble en direct jusqu'à 14h.
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
Artiste plasticienne, elle s'est fait un nom sur la scène contemporaine avec des œuvres dont la matière première est le carton. Découpée, superposée, collée, poncée, elle le sculpte pour reboiser le monde artistiquement. À partir du 11 juillet, elle exposera Cénotaphe à l'abbaye de Montmajour. Il est parfumeur indépendant, il a travaillé à Dubaï, a créé Rose Berberanza de Lancôme ou encore The Moon pour les éditions de parfums Frédéric Malle. Pour la revue Née, ils ont fusionné leur savoir-faire et leur créativité. Beaucoup discuté avant d'élaborer un parfum ensemble. Eva Jospin, bonjour.
Bonjour.
Julien Rasquinet, bonjour.
Bonjour, alors juste une petite correction, je ne suis pas parfumeur indépendant. Je travaille pour la société IFF qui est un des leaders de l'industrie. Voilà, donc indépendant dans ma création peut-être, mais j'appartiens à un grand groupe.
Sûrement. Voilà, bah alors pardon, bienvenue à IFF à vos côtés. Vous portez donc le nom de cette nouvelle institution à mes yeux, mais pas nouvelle pour ceux qui s'y connaissent. 1 plus 1, c'est le nom que vous avez donné, a donné la revue Née. N-E-Z, à cette expérience de création que vous avez partagée l'un et l'autre, que vous avez vécue comme quoi? Vous diriez, Eva Jospin, comme une addition de deux subjectivités?
Je pense que c'est un univers tellement incroyable, le monde du parfum, que pour moi, ça a été l'occasion d'un apprentissage accéléré et d'une découverte complète d'un monde dont j'avais quelques idées, mais relativement vagues. Et donc, moi, j'ai été surtout impressionnée de tout ce que Julien m'a apporté et tout le savoir qu'il y a autour de la création d'un parfum. C'est très complexe et c'est pas du tout une improvisation, au contraire. Mais j'étais vraiment très heureuse de partager cette expérience avec Julien. Et voilà. Et en fait, ça commence par des mots. Par des envies, et puis petit à petit on construit, mais on va rentrer plus dans les détails peut-être après.
Sur la question des subjectivités, Julien Rasquinet, est-ce que vous avez trouvé tout de suite des passerelles, des ponts entre vos deux personnalités?
Alors, ce qu'il y a de subjectif dans son travail, comme dans le mien, c'est que je pense qu'une partie du travail, il est fait par la personne qui va sentir mon parfum ou voir l'œuvre d'Eva. Donc ça, c'est la partie liée à l'émotion. Donc le parfum, ça parle vraiment à la partie la plus primitive du cerveau, celle qui est liée aux émotions. Donc si on considère que les émotions sont subjectives, oui. Et alors ça a été l'occasion d'une inspiration extraordinaire avec Eva pour cette création qu'on a faite ensemble. Tous les parfums que je fais ont un but d'être narratif. L'idée de raconter cette histoire d'Eva, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire.
C'est son histoire à elle que vous avez voulu raconter? Alors, à travers ce parfum que vous avez créé ensemble?
Alors, c'est toujours une histoire. Donc là, c'était l'histoire d'Eva, oui, que j'ai interprétée avec ma propre sensibilité. Mmh. Dans mon travail, mon but est vraiment d'être une éponge et de m'inspirer d'une histoire. Donc cette fois-ci, c'était son histoire à elle que j'ai interprétée, oui.
Alors, cette eau de parfum que vous avez créée ensemble, elle aurait pu s'appeler donc Eva, elle s'appelle Folia. Pourquoi ce nom?
Folia, parce qu'en fait, ça reprend, enfin, c'est un double sens pour moi, c'est-à-dire que ce sont un peu, ça évoque les folies architecturales, et c'est un sujet qui me passionne et que j'ai travaillé, et c'est aussi la feuille en latin, donc voilà, il y avait un double sens qui pouvait rappeler ces folies sur lesquelles je travaille, et j'en ai créé une, par exemple, au domaine de Chaumont-sur-Loire, et en même temps, ça reprenait un des éléments qui se retrouvent dans les forêts, qui sont les feuilles. Et Folia, il paraît, mais je ne sais pas si c'est vrai, que c'était aussi le nom qu'on donnait à des espèces de domaines folie champêtre des grandes familles romaines à l'Antiquité. Donc voilà, tout ça, ça m'évoque plein de choses qui m'inspirent.
Alors avant de voir les ingrédients, les parfums, les odeurs qui composent aussi les matériaux, ce parfum que vous avez imaginé ensemble, Eva Jospin, vous disiez que c'était un univers, la parfumerie, le monde du parfum en tout cas, que vous connaissiez peu auparavant. Vous avez donc découvert aussi un monde, hein, d'ailleurs plus qu'un secteur que vous ne connaissiez pas, celui-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise ou marqué dans cette approche d'un monde nouveau qui a, j'imagine, son langage, qui a ses codes, ses manières de faire aussi?
Alors, c'est tellement vaste tout ce qui m'a surprise que je vais essayer d'être synthétique. Déjà, ce qui est très impressionnant, c'est que je pense qu'il y a encore moins de parfumeurs dans le monde que d'artistes. C'est beaucoup plus difficile de devenir un parfumeur que de devenir un artiste, parce qu'en fait, il y en a vraiment très très peu qui vont réellement travailler et créer des parfums. Après, il y a aussi des parfumeurs indépendants, mais il y en a vraiment peu dans le monde, alors que nous, les artistes, on est beaucoup plus nombreux, on peut avoir une scène locale, on peut... Enfin, voilà, donc déjà, c'est un métier extrêmement sélectif, et il l'est parce que dans la formation, il faut... Alors, Julien, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, parce que c'est toi qui en parlerais le mieux, mais c'est une formation qui dure à peu près une dizaine d'années, donc c'est pratiquement comme, je sais pas, un compagnon. Moi, j'ai des références qui sont toujours beaucoup plus liées à l'artisanat. Donc, un compagnon, aujourd'hui... C'est 10 ans de formation, mais un parfumeur aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'années d'études et ensuite une pratique. Et il faut à la fois avoir des notions de pétrochimie et en même temps une mémoire incroyable, parce qu'ils doivent mémoriser plus de 1000 odeurs, autour de 1000 odeurs. Donc vous imaginez ce que ça veut dire pour le cerveau d'une personne d'être capable de mémoriser 1000 odeurs. Enfin là, on arrive ce sont des virtuoses de l'odorat, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que moi ça m'a vraiment impressionnée. Et ensuite la partie que j'ai découverte, c'est le mélange entre les matières naturelles. Tous les parfums ont encore certaines matières naturelles, et en même temps il y a eu une grande évolution avec la pétrochimie, et en même temps maintenant plein de façons aussi de sortir le parfum de la pétrochimie pour revenir à des choses plus naturelles à nouveau, mais autrement. Donc on rentre dans un monde industriel aussi assez fascinant, entre des récoltes de roses en Turquie et des usines d'ultra précision. Donc voilà, il y a plein de télescopages extrêmement contradictoires et très intéressants.
Un parfum avec des ingrédients 100% naturels, Julien Raskinet, ça n'existe plus. Il y a toujours maintenant une petite dose, une part de chimie qui joue peut-être aussi d'ailleurs les exhausteurs de goût.
Alors si, les parfums 100% naturels, c'est quelque chose qui existe, bien sûr, mais pour moi, la chimie est très importante, parce que c'est ce qui nous a permis de vraiment faire évoluer notre palette de matières premières. Or, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Depuis la fin du 19e, on a commencé à utiliser des molécules de synthèse dans les parfums. Donc il y en avait déjà dans Fougère Royale en 1882. Donc c'était de la coumarine, puis ça a continué avec tous les plus grands parfums de Guerlain, Chanel 5, et toute la parfumerie moderne utilise des ingrédients de synthèse, parce qu'à la fois, pour des questions toxicologiques, ça peut nous aider finalement à mieux contrôler ce qu'on met sur notre peau, et aussi, donc, ça a vraiment fait évoluer notre palette de matières premières, et ça nous permet d'être plus direct dans nos messages. Par exemple, quand on regarde l'essence de cacao, elle est composée de 900 molécules. Et moi, mon but, c'est d'être un illusionniste et de vous faire croire à l'essence de cacao en un ou deux ingrédients. Ça se fait grâce à la synthèse. Et donc, ça nous permet de faire des messages qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus clairs, faciles à comprendre pour la personne qui veut les porter.
Un mot sur vos études. C'est vrai qu'il y a, on l'entend, quelque chose de très artisanal aussi dans la création d'un parfum et d'artistique aussi. Vous avez eu, vous, un maître parfumeur?
Alors oui, alors moi j'ai un parcours un tout petit peu différent de la plupart des parfumeurs, parce que la plupart d'entre eux fait d'abord de la chimie. Après, ils sont formés à l'ISIPCA à Versailles ou à l'ESP à Paris, donc qui sont des écoles spécialisées dans le parfum, donc qui forment la plupart des futurs parfumeurs. Et après, donc il y a 3 ans, qui se font au sein d'une société de composition comme IFF, dans laquelle on a une école de parfumerie interne. Donc on prend des jeunes qui sortent de ces écoles-là, qui passent 3 ans avec un parfumeur, donc qu'on appelle un maître parfumeur. Et au bout de ces 3 ans, ils deviennent parfumeurs juniors et ils suivent le cours de leur carrière. Mmh. Et moi, en fait, j'avais fait une école de commerce parce que je ne savais pas que le métier de parfumeur existait. Donc j'étais tombé amoureux du parfum à l'adolescence. Et à ce moment-là, c'est devenu une extension de ma personnalité et c'était devenu extrêmement important. J'imaginais, je me sentais nu si je portais pas de parfum. Et je voulais faire carrière dedans à tout prix. Mais j'ai fait une école de commerce un peu comme tout le monde, ne sachant pas trop quoi faire. Et j'ai fini par rencontrer dans un stage... au marketing d'IFF d'ailleurs, j'ai fini par rencontrer des parfumeurs qui m'ont vraiment transmis leur virus du métier, qui m'ont fait comprendre toute la beauté de la création derrière un parfum, alors que j'imaginais jusque-là qu'on mettait un peu d'essence de rose dans un flacon et ça allait sortir comme ça. Je réalisais pas du tout ni la chimie, ni la création, ni la beauté qu'il y avait derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire ça à tout prix. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que mon père est tombé un peu par hasard sur Pierre Bourdon, qui est un des plus grands parfumeurs. Il a créé des ruptures dans la parfumerie, des parfums qui sont devenus des best-sellers et qui sont encore aujourd'hui des parfums qui sont parmi les plus vendus dans le monde. Donc c'était quelqu'un que j'admirais vraiment pour sa force créative. Et donc mon père est tombé sur lui dans un aéroport, ils ont commencé à discuter. Et il m'a donné sa carte de visite. Et moi, quand j'ai vu le nom Pierre Bourdon, j'ai sauté au plafond. Donc je l'ai appelé le lendemain. Et en fait, ça a mis quelques mois pendant lesquels moi, j'étais prêt à faire tout. J'étais prêt à devenir commercial, passer le balai derrière lui s'il fallait. Je voulais juste travailler avec lui. Et un jour, en fait, c'est venu de lui. Je ne lui ai jamais demandé, je ne lui ai jamais posé la question. Et il m'a dit, écoute, moi, je prends ma retraite dans 3 mois et j'aimerais bien que tu sois mon dernier élève. Et à ce moment-là, j'y croyais tellement pas parce que j'avais pas fait les études pour. J'ai eu la réponse la plus idiote qu'on puisse avoir. Je lui ai dit, il faut que je réfléchisse. Donc, le lendemain, je l'ai rappelé en lui disant, non, mais je suis désolé, je sais pas comment j'ai pu dire un truc aussi idiot. Et donc, c'est là que l'aventure a commencé.
Votre best-seller, vous l'avez déjà réalisé, trouvé, ou ça reste la quête? Le parfum qui serait signé Julien Rasquinet se démarquerait complètement des autres ou perdurerait?
Bon, alors ça, c'est plus aux autres à le dire que moi, mais il y a des parfums dont je suis très fier, en tout cas. J'ai travaillé, par exemple, avec Frédéric Malle, sur un parfum qui s'appelle The Moon. Il faut savoir, j'ai passé une partie de ma vie de parfumeur au Moyen-Orient, parce que je suis absolument fasciné par cette parfumerie-là. J'ai passé 5 ans à Dubaï et j'y suis allé par amour de la parfumerie arabe. Et donc Frédéric Malle, un jour, est venu me voir à Dubaï et il m'a dit qu'il aimerait bien faire un parfum avec moi, ce qui était une chance extraordinaire parce que je pense être le parfumeur le plus jeune avec lequel il ait travaillé. Et donc on a fait une interprétation de ce qu'était le Moyen-Orient pour nous, donc avec une odeur de oud qui est un bois que les Arabes utilisent énormément, soit par fumigation, soit en huile pure sur leur peau. Donc c'est un arbre en fait qui doit développer une maladie avant d'avoir cette odeur qui est si particulière. Donc il y a une espèce de champignon qui se développe dans l'arbre. Donc je suis allé voir les cultures à Assam, dans le nord-est de l'Inde, là où on cultive le thé. Il y a aussi ces plantations de oud, et c'est une des matières premières les plus chères de la parfumerie. Donc avec Frédéric Malle, on a décidé d'utiliser cette matière première-là en colonne vertébrale de notre parfum, avec une odeur de chicha, donc qui sent la framboise, les fruits rouges, et aussi une odeur de rose et de safran, vraiment typique des soirées qu'on peut avoir dans le monde arabe.
Le voyage olfactif a commencé.
Oui, on y est.
C'est un petit morceau de cet univers que nous fait découvrir le film Les Parfums de Grégory Magne en salle depuis mercredi, avec notamment Emmanuel De Vos en nez, qui initie au métier son chauffeur Guillaume Extrait.
Le bois ciré des vieux meubles dans les maisons de campagne ou les églises, enfin.
Essence de miel absolue.
Perdu.
Non, vous avez pensé à la cire d'abeille? Rincez-vous le nez.
Quoi?
Respirez votre propre odeur comme ça. Ça s'appelle faire le blanc. Tenez. Voilà, allez-y. Alors ?
Bah. Ça fait penser à ma poubelle.
Aldéhyde C10, une des notes caractéristiques du Chanel numéro 5. En général, on pense plutôt à l'écorce d'orange.
Oui, c'est ça, ça m'a fait penser aux pelures d'orange dans la poubelle. Vous savez, le... Bon. Le repas va être froid, alors. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Voilà, Guillaume le chauffeur, c'est Grégory Montel, ex de la série 10%, agent, donc, que vous reconnaîtrez peut-être par sa voix. Julien Rasquinet, c'est bien fait, c'est assez crédible, réaliste, cette scène que vous venez d'entendre.
Alors, j'ai pas vu le film, mais oui, j'ai l'impression, et je sais qu'ils ont été très bien conseillés par des parfumeurs, oui, je pense que ça a l'air de donner une impression de ce qu'est la vie d'un parfumeur. Oui.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur, comme on l'entendait à l'instant dans cet extrait. Ça me fait penser aux pelures, aux épluchures d'orange qu'on peut trouver dans une poubelle. En parfumerie, il n'y a pas de bonne et mauvaise odeur, comme nous, on aurait tendance à les identifier ou à les étiqueter.
Alors c'est vrai qu'en tout cas, quand on est parfumeur, on doit être curieux de tout. Et vous seriez surprise de certaines notes qu'on peut sentir dans nos créations. Alors qu'on mettra vraiment dans des dosages très faibles dans un parfum. Donc ces notes animales, par exemple, donc sont des odeurs qui peuvent être même fécales ou sentir le cuir, mais qui sont des composantes naturelles de certaines fleurs. Dans le jasmin, par exemple, il peut y avoir ces notes-là. Alors l'idée c'est qu'elles se ressentent pas trop dans la création finale, mais si on sent ces notes-là seules, ça peut être assez surprenant, déroutant.
Et si on les enlève, qu'est-ce qui se passe si on les enlève complètement ?
Alors si on les enlève complètement, on peut... le jasmin perdrait complètement son âme en fait. Donc il perdrait de sa puissance et de sa beauté. Il y a quelque chose de sublime en fait dans les notes animales.
Oui, mais c'est vrai que... Alors, ce qui a été très amusant, c'est que je suis allée voir le laboratoire. Alors, j'ai vu plein de choses, comment ça fonctionne, c'est vraiment génial. Parce que, alors, ce que j'ignorais, c'est que Julien, il va faire sa formule, il va l'écrire. Et il va écrire sa formule avec un certain nombre de composants, mais il peut y en avoir pas mal d'ailleurs, hein, une vingtaine, une trentaine, ça dépend. Et il l'envoie à son laborantin qui va regarder la formule. Et il va faire une proposition, il va mélanger tous les ingrédients qui sont dans la formule, et on va aller sentir, et puis à partir de là, Julien, il va dire, il faut enlever ça, il faut rajouter ça, il faut une note de ça, il faut... Voilà, moi j'ai trouvé que c'était impressionnant, parce qu'au départ, c'est quand même quelque chose de mental, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage physique, mais ensuite, ça part complètement dans le mental, puisqu'il est assis à un bureau quand il écrit sa formule. Donc déjà, ça paraît très étrange, parce que moi, j'imaginais qu'il était là dans le laboratoire en train de sentir plein de choses en disant « rajoute un peu de ça », mais pas du tout. Et on a fait des essais, il m'a fait sentir plein de choses, justement, il essayait de me faire découvrir, j'étais assez nulle d'ailleurs, qu'est-ce que c'était, etc. Et c'est vrai qu'il m'a aussi fait sentir des composantes animales, il disait, qui sont proches de matières un peu fécales ou de choses de peau, de cuir, d'odeurs qui peuvent être un peu étranges.
Est-ce que vous avez progressé ? Est-ce que Julien Rasquinet, vous voulez tester deux, trois... Vous avez des petites fioles devant vous.
Je vais encore me faire humilier en public.
Non, mais elle n'a pas du tout été si mauvaise que ça.
Si.
Mais oui, alors...
C'est pas la réponse, mais alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, la première est facile. Je vous dis pas, vous voulez...
Non, faites deviner.
Ah non, mais c'est notre cobaye aujourd'hui.
Vous allez deviner aussi.
On va vous parler d'abord. Merci beaucoup.
Donc en fait, l'idée de sentir une matière première comme ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la première année d'apprentissage du métier de parfumerie.
Là, c'est pas mélangé, c'est pur.
Ça, c'est pur. C'est une huile essentielle, pure.
Moi, je dirais la rose.
Oui, voilà.
Forte.
Bravo. Alors, en fait, dans l'apprentissage des matières premières, donc la première année d'école de parfumerie, c'est l'apprentissage des matières premières. Donc, on doit essayer de retenir 1000 matières premières ou plus. Il faut être capable de les identifier, de les reconnaître, mais plus important, de les exploser en facettes. En fait, on peut la sentir soit d'une manière un peu monolithique et sentir juste l'essence de rose, ou on peut essayer de la décrire. Et donc ça, c'est plus compliqué. Donc je ne sais pas si vous avez, vous, des éléments de description sur cette note, par exemple. On peut voir dedans une facette litchi, on peut voir des facettes framboises, on peut voir de la pomme.
Un peu de bois aussi, quand même. Moi, je trouve. Il y a quelque chose d'un peu fumé aussi sur le fond.
Oui, on peut voir quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'épicé, il y a quelque chose de boisé. En fait, c'est des centaines de molécules qui composent l'essence de rose. Et il faut être capable de faire des ponts avec d'autres matières premières. Et c'est de là que naîtra une création. Donc dans mon apprentissage, j'avais d'un côté des carnets où je mettais les noms des matières premières et en face des adjectifs, donc tous ceux que j'ai cités là sur la rose, et un autre carnet dans lequel une correspondance dans lequel je mettais les adjectifs et en face de ça les matières premières correspondantes. Donc si je veux faire une note terreuse par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Eva, je vais retrouver le patchouli, l'iris, le vétiver, des molécules de synthèse et tout ce qui peut m'aider à construire une formule terreuse.
Et la rose, il paraît que c'est un des parfums les plus durs à assembler, ou en tout cas à recréer, à réimaginer.
Alors pour moi, en tout cas, oui, ça a été un des sujets les plus complexes, mais comme pour beaucoup d'autres sujets, mais j'ai mis, je pense, une bonne dizaine d'années avant d'être capable de faire de bonnes roses. Avant ça, je trouvais toujours soit qu'elles n'étaient pas suffisamment signées, soit qu'elles n'étaient pas assez naturelles. Et donc oui, mais en fait, c'est comme ça pour beaucoup de thèmes. Je pense qu'on a beaucoup d'idées quand on est jeune, et il faut attendre 10 ans d'expérience, d'essais, de coups durs pour réussir à faire ce qu'on voulait faire.
Je crois que c'était un de mes premiers parfums. J'avais une petite fiole d'huile essentielle de rose quand j'étais petite. Ça ramène à l'enfance. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec les parfums, certaines odeurs, ce côté un peu Madeleine de Proust qui finalement se résumerait pas au goût, qui rapporte aussi à des parfums, à des sensations. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit d'ailleurs la philosophe Chantal Jacquet.
L'odeur est toujours liée à l'enfance, et c'est pour ça d'ailleurs que Bachelard disait qu'on retrouvait à travers l'odeur toutes les traces d'un passé révolu et pourtant bien présent en même temps. Affleure à nouveau le monde ancien sous le monde présent. Et donc travailler sur l'odeur, c'est toujours aussi travailler sur la mémoire, essayer de voir à travers le parfum les traces fugaces de ce qui n'est plus et qui est pourtant encore présent. Donc c'est à la fois le plus jamais, mais en même temps quelque chose qui est réactivé. Donc à travers l'odeur, c'est l'enfance aussi retrouvée et comme un parfum d'éternité. Et c'est ça aussi que Proust donne à sentir.
Le parfum, pour vous aussi, Julien Raskinet, ça ramène à l'enfance. C'est une sensation d'enfance, les premières, vous vous en souvenez? Cet éveil olfactif.
Un parfum renvoie tout de suite à des moments de sa vie, en tout cas. Et donc à l'enfance, oui, c'est un des premiers sens qui se développe. Déjà dans le fœtus, c'est le premier sens qui se développe.
L'odeur des parents.
Donc oui, moi il suffit que je sente, je pense que quand les gens vont sentir le parfum d'Eva, ça va les ramener dans des souvenirs champêtres, j'espère.
Eva Jospin.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, dans nos premiers échanges avec Julien, il s'agissait aussi de raconter quel était mon univers d'odeur, donc des souvenirs, des choses que j'aime, et puis des lieux. Donc il y avait, au-delà de l'idée de trouver une odeur liée à mon travail, j'ai raconté aussi quelles étaient les odeurs que j'aimais. Après, sur cette création particulière de Folia, on a essayé de trouver un parfum qui soit un lieu traversé de présence. On a imaginé une forêt traversée par des nymphes. En fait, c'était ça l'idée. Donc il fallait que ce soit pas le parfum, que l'odeur d'une personne, quelqu'un qui mettrait un parfum, mais plutôt l'odeur d'un endroit et avec le sillage de l'odeur d'une personne. C'était un peu ça ce qu'on a cherché à faire. Et voilà, et c'était très intéressant dans la construction parce que c'est comme s'il avait réussi à me donner au départ la base du lieu, et ensuite il y a eu des variations de comment on introduit ce sillage. Et on a réussi, enfin on a réussi, il a réussi, parce que moi j'ai juste dit ah oui, ça c'est bien, celui-là il est pas mal, mais voilà, et c'était très intéressant de construire comme ça, donc vraiment sur un, au début sur quelque chose de très mental. Et il arrive quelques semaines, une semaine après ou quelques jours après, avec une proposition. Parce qu'il sait traduire les mots en odeur.
Oui, parce qu'avec un parfum, est-ce qu'on peut dire qu'on ne cherche pas ou jamais à imiter, mais vraiment à représenter ?
On cherche à représenter plutôt, ou à raconter une histoire. J'essaye de... Il y a des inspirations qui sont plutôt figuratives, mais ce n'est pas forcément le propos. C'est d'abord une intention de création qui est de raconter une histoire.
Qu'est-ce que vous avez mis, choisi comme matériau, comme ingrédient pour ce parfum Folia ?
Alors, quand
pour raconter cette histoire qu'Eva Jospin nous décrivait.
Alors, quand on regarde les œuvres d'Eva, donc il y a toute une scène qui se déroule devant nous, qui est à la fois minérale, on a l'impression de mouvement, on a l'impression qu'il y a un mouvement d'eau au milieu des pierres. Il y a une impression, alors que les feuilles sont absentes, on a l'impression de les voir. Et on a l'impression aussi qu'il y a des changements de perspective. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce parfum. Je pense qu'il y a moyen de le voir sous des perspectives différentes. Donc on peut se concentrer sur les notes plutôt minérales, on peut voir l'humus, on peut voir les feuilles, on peut voir le pourrissement de ces feuilles, et on peut voir cette présence qu'on ressent très fortement quand on regarde le travail d'Eva. Présence d'une nymphe, quelque chose d'assez joyeux.
C'est vraiment deux arts de la métamorphose hein, dans votre travail aussi, Eva Jospin, votre travail de la matière, cette manière que vous avez de vous saisir du carton, de le retravailler, de le découper avant de l'assembler pour qu'il change aussi d'apparence et trouve sa disposition pour raconter l'histoire que vous voulez raconter. Il y a un point commun, là encore, entre vos deux manières de faire, cette idée d'additionner des matériaux, ou plutôt de les juxtaposer.
Moi, j'ai l'impression quand même, et surtout ce projet qu'on a fait ensemble, qui au départ est proposé par la revue Né, ça a quand même donné une envie de création qu'on va faire, puisque en fait, j'ai proposé à Julien de travailler sur des odeurs pour une installation. Ce sera une œuvre pérenne qui va être à Milan, sur une place publique à Milan. Et c'est une fondation qui m'a choisi pour faire ce projet. Donc bon, on a un petit peu de temps devant nous. Mais cette œuvre, ce sera une serre. Le titre de l'œuvre s'appelle Microclimat. Et à l'intérieur de cette serre, je vais recomposer un paysage un peu imaginaire entre le minéral et le végétal. Et j'ai proposé à Julien de venir s'inscrire dans l'œuvre et de trouver les odeurs qui pourraient composer cette serre. Donc je pense qu'on a en commun l'idée, comme vous disiez précisément tout à l'heure, de représenter, de faire sortir des mondes imaginaires. Et vous avez utilisé le terme métamorphose qui est pour moi aussi très important, parce que c'est vrai qu'on utilise des matériaux chacun pour dire autre chose. Les matériaux sont transformés. Il y a une perte de leur de leur essence, mais il y a une trace qui reste en fait. Et je pense que c'est un peu commun. Et voilà. Et les métamorphoses, évidemment, c'est un thème qui m'intéresse parce que c'est aussi la mythologie. Et dans les sujets que je travaille en général, je m'inspire beaucoup aussi de ce rapport à la mythologie.
L'artiste plasticienne Eva Jospin et le parfumeur Julien Rasquinet sont avec nous pour quelques minutes encore. Le nez, c'est votre profession, drôle de nom. Et c'est aussi un roman de Gogol. On va en écouter un extrait lu par Denis Podalydès.
Soudain, il s'arrêta, cloué sur place. Un événement incompréhensible se passait sous ses yeux. Un landau venait de s'arrêter devant la porte d'une maison. La portière s'ouvrit. Un personnage en uniforme sauta tout courbé de la voiture et grimpa l'escalier 4 à 4. Quelles ne furent pas la surprise et l'effroi de Kovalyov en reconnaissant, dans ce personnage, son propre nez. à ce spectacle extraordinaire, il crut qu'une révolution s'était produite dans son appareil visuel. Il sentit ses jambes flageoler, mais décida pourtant d'attendre coûte que coûte le retour du personnage. Il demeura donc là, tremblant, comme dans un accès de fièvre. Au bout de 2 minutes, le nez réapparut. Il portait un uniforme brodé d'or, à grand col droit, un pantalon de chamois et une épée au côté. Son bicorne à plumes laissait inférer qu'il avait rang de conseiller d'État. Il faisait à coup sûr une tournée de visite. Il regarda de côté et d'autre, héla sa voiture, y prit place et disparut. Le pauvre Kovalyov, tout pantois, ne savait que penser de cet étrange incident. Comment diantre son nez, hier encore ornement de son visage et incapable de se mouvoir, pas plus à pied qu'en voiture, portait-il aujourd'hui l'uniforme?
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
I got a wife and 3 children, baby. And I know I shouldn't be loving you like this. But somehow when I first met you, baby, it was your love that I just couldn't resist. And every time I see a queen of you, I find myself loving, loving, loving on you one more time. Oh, baby, you got something that drives me out of my mind. You a fortune teller, baby, to find out what was wrong with me. She said, give me your hand, son, and I'll tell you what your trouble is. That he was a woman and the sweet, sweet smell of a beer. Something that drives me out of my mind. I went to a fortune teller, baby, to find out what was wrong with me now. She said, give me your hand, son, and I'll tell you what your trouble is. She said you was a woman and a sweet, sweet smell of perfume, yeah.
Le nez, le parfum en musique avec Sweet Smell of the Perfume à l'instant après cette lecture par Denis Podalydès d'un extrait du nez de Gogol. Voilà, vous n'avez jamais perdu votre nez, il est toujours resté là.
Il est fidèle. Là, malgré le Covid, il est toujours là.
Moi, ça, c'est parfait. Ce serait embêtant de le perdre, non? Ça vous inquiète? Ça fait partie des angoisses?
C'est ce qui pourrait m'arriver de pire dans la vie, mais je crois que c'est le pire des sens à perdre, de toute façon.
Il y a des... Ça, je... Oui, vous pensez?
Pour moi, en tout cas, oui.
Aucun. On a envie d'en perdre aucun. En fait.
Non. Ouais.
Il y a des parfums qui restent et d'autres qui s'évaporent. Lesquels ont aujourd'hui, vous, votre préférence, Julien Raskinet?
Moi, j'aime les parfums qui restent. Pour moi, c'est dans la construction d'un parfum, c'est très important. Et d'ailleurs, on constate quand même que les plus grands succès du marché, les parfums qui restent dans l'histoire, sont généralement des parfums qui sont assez puissants et qui restent longtemps sur la peau.
C'est un Chanel numéro 5, c'est un Fahrenheit.
Oui.
C'est un chez Guerlain, qu'est-ce que c'est?
C'est un Coolwater chez Davidoff, c'est La vie est belle chez Lancôme. Voilà.
Vous parfumez naturellement?
Je me parfume, mais moi j'aime les parfums qui s'évaporent. Donc on est assez différents de ce point de vue. Et oui, moi j'aime bien que ça s'évapore vite.
Pourquoi on se parfume? Pourquoi vous parfumez?
Je me parfume parfois. En fait, en ce moment, je me parfume. Mais il y a eu des années où je ne me parfumais plus du tout. Mais j'aime bien en fait, ce que j'aime, c'est qu'il reste une petite trace d'une odeur, mais qui ressemble quand même à ma peau. C'est pour ça que j'aime bien les parfums qui s'évaporent. En fait, j'aime continuer à avoir un peu mon odeur, mais légèrement améliorée. Enfin, teintée d'autres choses.
Alors moi, j'ai peur de vous décevoir, mais je me parfume très peu, en fait, parce que pour la simple et bonne raison que je ne dois pas avoir d'odeur parasite sur moi. Donc quand je travaille, il faut que je sois tout à fait alerte et précis dans ce que je sens. Et si je porte un parfum, ça va m'empêcher ou ça va être plus difficile de faire mon travail. Donc j'ai finalement pas l'habitude de me parfumer en journée, en tout cas. Bon, après, quand je sors et le week-end, j'ai tendance à porter les derniers essais du moment. Mais il y a quand même des parfums auxquels je tiens particulièrement et qui font que je me sens bien et relaxé, tout simplement.
Alors là, on a un champ de roses qui habite ce studio depuis que vous nous avez fait essayer cette essence, cette huile essentielle. Vous en avez peut-être un deuxième et on se quittera là-dessus pour...
Avec plaisir, oui.
Mais il faut que ça s'associe à la rose, parce que nous, on est encore là jusqu'à 14h. Et il faut que vous trouviez la juxtaposition idéale, non ?
Je vais vous faire sentir quelque chose de très bon, ne vous inquiétez pas. Mais plus difficile à trouver, peut-être.
Il faut qu'on nettoie nos nez, hein, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, bah alors j'ai demandé, parce que j'étais très curieuse pendant la pause musicale, mais Julien m'a dit que c'était pas si vrai que ça.
Ça, c'est pour les spécialistes.
Alors, oui, non, en fait, c'est pas nécessaire. Enfin, nous, c'est vrai que certains vont vous faire sentir des grains de café, mais les parfumeurs ne font pas ça.
On a notre troisième invité, Pierre Curie, qui nous a rejoint, à qui on va donner bonjour.
Bonjour.
Conservateur, commissaire de l'exposition Turner au musée Jacques Marandré en ce moment. Vous voilà mêlé dans cette aventure olfactive, ce voyage, avant d'entamer avec vous un voyage pictural. Alors pardon, c'est difficile de sentir en même temps qu'on parle.
Oui. Mais ça c'est difficile.
Et ça je vous donne assez peu de chance en fait.
Oui, parce que justement ça c'est un des composants bizarres qui finalement ne se sentent plus à la fin.
Alors ça, en fait, c'est une des merveilles de la parfumerie, c'est de l'iris absolu Palida, donc de chez LMR, qui est la division matières premières naturelles d'IFF, donc qui est le plus bel artisan des matières premières naturelles dans le monde. Et donc l'iris absolu, c'est une matière première qui est extraordinaire.
Alors parce on n'en met pas tout seul
Non. Hein. Non, mais alors ça, là, je vous fais sentir l'absolu seul. Donc, c'est une matière première qui nécessite, en fait, 3 ans de culture. Donc, il faut cultiver l'iris 3 ans. Et après, il faut 3 ans de séchage. En fait, il y a une molécule dans la racine, dans le rhizome d'iris, qui s'appelle l'irone et qui ne sent presque rien au moment où on fait la récolte. Mais après 3 ans de séchage, cette irone se développe. Et on peut en créer d'abord une concrète. Puis après, on refait un travail de fractionnement sur cette concrète pour en retirer les 4/5 et pour avoir cet absolu qui est un produit absolument merveilleux.
Pierre Curie, vous associez une couleur à cette odeur, à ce parfum ?
Ça serait du gris, un peu comme de la cendre.
Eva Jospin ?
Oui, alors moi je serais plutôt sur une pierre, mais pas forcément une couleur, mais quelque chose comme ça.
Très minéral, hein.
Ouais.
C'est une note qui est très florale, violette, qui a quelque chose de cuiré, de boisé également.
Aussi, ouais.
Et dans son poudré, ça peut faire penser. Aux perruques et à la poudre de riz. Donc quelque chose de vraiment cosmétique dans cette matière première qui est sublime.
Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. On va aller maintenant à la rencontre de Turner. Vous restez avec nous, Julien Raskinet ?
Volontiers.
Oui. Et Eva Jospin ?
Avec plaisir, pour Turner, bien sûr.
Turner, toujours. Pierre Curie est donc notre troisième invité, conservateur et co-commissaire de l'exposition Turner, qui rassemble et présente une 60aine d'aquarelles de toute taille prêtées par la Tate Britain de Londres, maison mère de Turner. Exposition à voir actuellement au musée Jacques Marandré à Paris. On écoute un extrait du film Mr. Turner de Mike Leigh.
Qu'est-ce qu'il vous faut ?
Une once de jaune de chrome.
Jaune de chrome, Joshua.
Jaune de chrome, monsieur.
Un grand sachet de blanc de plomb.
Blanc de plomb ?
Combien demandez-vous pour une vessie d'outre-mer ?
J'en demande le meilleur prix.
Et quel est ce prix ?
Le bleu outre-mer est un bleu qui vient de très loin, Afghanistan. Il vous faut autre chose ?
Une bouteille d'huile de pavot, du rouge indien.
Oui, de pavot, Joshua.
Oui, monsieur.
En français, dans le texte, pour entendre cette palette de couleurs, Pierre Curie, pardon, à quel voyage nous invite Turner dans cette exposition ?
Alors, il nous invite à ces voyages, je dirais, au premier sens du terme, parce qu'il a été un grand voyageur européen. Il a tout à fait suivi cette tradition du grand tour que aussi bien les aristocrates que les artistes du XVIIIe siècle avaient à cœur de faire dans leur formation, en fait. Tout gentilhomme ou tout artiste devait aller un jour en Italie. Et ce voyage européen, il l'a fait plusieurs fois, surtout après la chute de Napoléon, bien sûr, qui a libéré les frontières pour les artistes et pour les hommes. Mais il y a aussi ce voyage intérieur qui est très important chez lui, puisqu'il a toute une part de production, je dirais, commerciale. C'est un artiste qui a très bien marché, qui était très célèbre, qui a vendu très bien ses œuvres, huiles et aquarelles. Mais il a aussi une production très intime, extrêmement expérimentale, notamment donc dans le domaine de l'aquarelle, une production à laquelle il attachait une grande importance, puisqu'il gardait la moindre feuille sur laquelle il jetait ses fameux color beginnings, ces espèces d'esquisses colorées, qui sont parfois comme des taches tout à fait abstraites. Nous en présentons quelques-unes très abstraites et qui faisaient partie en fait de son laboratoire personnel et qu'il conservait précieusement dans ses cartons.
Et ces aquarelles sont d'ailleurs une toute petite partie de l'œuvre de Turner, hein, qui a cédé son œuvre et laissé un leg assez impressionnant, hein, par sa quantité aussi. C'était quelqu'un de très créatif.
Oui, on peut penser même que ce travail est presque une gymnastique quotidienne. Enfin, selon les chiffrages, on est entre 19 000 et 30 000 œuvres graphiques légué à la nation britannique, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et puis, bien sûr, les peintures à l'huile qui sont très nombreuses, il en a beaucoup vendu, il y en a dans de très nombreux musées, châteaux anglais ou musées américains. C'était vraiment un artiste extrêmement lancé, donc il a énormément produit. On a même l'impression qu'il ne s'est jamais arrêté, enfin qu'il travaillait tous les jours que Dieu faisait et qu'il avait cette espèce de pulsion créative en permanence.
Le paysage n'existe que dans l'œil de celui qui le regarde, dit l'historien d'art Pierre Watt. Vous êtes d'accord avec lui ? L'œil du regardeur fait
Alors,
le paysage.
Évidemment, l'avis de Pierre Watt fait autorité sur la question du paysage. Non, mais je pense quand même que si je ne le surinterprète pas trop, Turner est un romantique. Donc le paysage est en quelque sorte le support de l'expression de quelque chose d'intime, de personnel et surtout de sentiment, tout simplement. Et j'ai l'impression que dans ses œuvres les plus personnelles, Turner a cherché essentiellement à s'exprimer lui-même, et pas tellement à représenter telle falaise, telle mer ou telle forêt. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il recherche cette force de la nature pour susciter en lui des réactions, des sensations. Quand il vient en Normandie quelques années avant sa mort, il dit « je veux des tempêtes et des épaves ». C'est vraiment, c'est un contemporain de Victor Hugo, quoi. Il recherche des ce que les Italiens appellent des affects, c'est les sensations.
Ce romantisme à la Turner, Eva Jospin, vous touche ?
Oui, beaucoup. C'est vrai que tous les artistes qui sont à peu près, enfin, qui sont plus ou moins liés au romantisme m'intéressent beaucoup, parce que je pense qu'ils ont traversé un siècle qui les a poussés vers un rapport au paysage très, très particulier et qui refait complètement surface aujourd'hui. Je pense qu'il y a on est extrêmement conscient à nouveau de cette transformation du monde. Il faut imaginer aussi que pour certains, enfin, ils assistent aussi à une exploitation minière, à des transformations du paysage au XIXe siècle avec l'industrialisation, qui a aussi provoqué cette vision romantique. Donc ça, je crois que là, aujourd'hui, on ne peut pas être plus liée à ce mouvement, parce qu'on revit à nouveau cette prise de conscience, ce besoin du paysage. Et voilà, donc ça me touche beaucoup. Après, c'est vrai que Turner, c'est un peintre que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas forcément regardé si bien que ça. Enfin, j'ai vu évidemment plein d'œuvres, mais on croit le connaître, en fait. Voilà, c'est souvent le problème des superstars artistes. On croit les connaître et on néglige parfois certains aspects. Et c'est vrai que là, l'exposition, la qualité des aquarelles est absolument saisissante. Enfin, avoir la chance de s'approcher à 5 cm de détails incroyables, particulièrement dans la première salle, c'est vraiment fou. Et j'ai beaucoup aimé aussi tout ce que vous avez présenté sur les ébauches colorées. J'ai trouvé ça génial. Le processus de travail, on rentre vraiment dans ce que vous avez choisi de présenter. On comprend qu'il y a une production finale, mais tout un travail de construction extrêmement complexe et vaste et riche qui va appuyer la finalité de l'œuvre. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
C'est aussi la force de cette exposition de ne pas nous montrer tout Turner, mais d'entrer aussi dans son œuvre et son univers à travers ses aquarelles, ses grands et ses petits formats, ses ébauches que vous évoquiez, hein, Pierre.
C'est une anthologie, en fait, un choix d'œuvre pour essayer de cerner cette personnalité artistique très complexe. Alors vous avez tout à fait raison, le paysage change complètement de nature avec la génération des artistes contemporains de Turner. Le paysage jusqu'au milieu du XVIIIe siècle est quasiment exclusivement un paysage historique, bien inscrit dans la hiérarchie des genres, dans le système académique. Et puis tous les artistes européens, Turner l'un des premiers, mais en France ça va être Corot, et enfin il y en a beaucoup, vont se libérer de ce carcan de l'histoire et aborder le paysage, la nature d'une façon tout à fait nouvelle, tout à fait spontanée en la regardant. Ce qui est très particulier chez Turner, c'est que ce paysage fait partie d'une reconstruction mentale puisqu'il travaille en atelier. Ce qui est peut-être une des choses les plus surprenantes à admettre quand on voit l'exposition et qu'on regarde ces aquarelles qui ont l'air tellement spontanées et faites sur le vif et pas du tout, en fait.
Mais oui, c'est ce que vous décrivez. Enfin, c'est très bien montré.
Il prend des petites notes dans ses carnets pendant ses voyages. En gros, il voyage 6 mois de l'année et il travaille 6 mois de l'année en atelier à Londres. Et ces merveilleuses aquarelles, par exemple celle des Alpes ou certaines d'Italie, sont complètement reconstituées dans son mental en atelier à Londres, ce qui est quand même assez époustouflant. Ça demande d'abord une mémoire visuelle extraordinaire et puis une capacité, je dirais, poétique d'invention, de reconstitution extraordinaire.
Mais du coup, toutes ces aquarelles, ces œuvres sont aussi son journal de voyage, son carnet de voyage, son récit presque de voyage. Est-ce qu'il avait lui aussi une histoire à nous raconter, comme l'évoquait Julien Raskinet avec ses parfums?
C'est un personnage très paradoxal. Le film de Mike Lee est très intéressant pour ça, parce qu'il montre un homme assez brutal, assez rustre, mais avec une vie intérieure et artistique extrêmement riche et intéressante. Ces voyages, ils ont d'abord, pour Turner, un but commercial, c'est-à-dire qu'il vivait de son art et qu'il vendait des illustrations pour des voyages pittoresques. C'est l'époque où les publications sont de plus en plus illustrées, donc il s'inscrit complètement dans ce mouvement-là. Il va puiser aussi, notamment à Venise, des sujets, des thèmes, des motifs pour créer ces grands tableaux qui ont beaucoup, beaucoup de succès dans les salons, à la Royal Academy ou ailleurs. Donc il y a un but, je dirais, assez scuril de ces voyages de Turner, mais en même temps, il les met à profit pour emmagasiner toutes ces impressions, ces couleurs, ces lumières qu'il va rapporter dans sa psyché personnelle et qu'il va exprimer ensuite dans son atelier.
Alors Turner était un dessinateur avant d'être peintre, vous le racontez. Oui. Il était aussi d'abord un aquarelliste avant de passer à la peinture à l'huile. Cette aquarelle qui semble parfois un peu passer de mode aujourd'hui et qui est pourtant une matière assez exceptionnelle, vous la qualifieriez comment? Quelle est sa vertu ou sa valeur ajoutée? Est-ce que vous diriez que c'est une peinture de la lumière?
C'est en tout cas une matière et une technique qui suppose de travailler avec la transparence, puisque les blancs, tous les clairs, sont rendus par le papier qui est laissé en réserve ou plus ou moins recouvert. Donc c'est une technique qui est pratiquement l'inverse de la peinture à l'huile, où en effet les parties dans la tradition classique de la bonne technique à l'ancienne, les parties claires sont très empâtées, les parties foncées très minces. Et l'aquarelle, d'ailleurs, avec laquelle il recherche les mêmes effets que la peinture à l'huile. C'est assez frappant. On a mis des comparaisons comme ça, des huiles et aquarelles l'une à côté de l'autre, pour montrer à quel point il recherche une expression de la profondeur et du volume du paysage par des moyens qui sont à la fois opposés, extrêmement, extrêmement similaires. Et l'aquarelle, évidemment, procède mentalement par la soustraction.
Eva Jospin.
Oui, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que on sent vraiment la. Ça dépend des œuvres, hein, mais on voit quand même que il y a une construction de la couleur extrêmement complexe, parce qu'on sent qu'il fait monter des teintes avec une accumulation d'un certain nombre de couches pour arriver à des bruns bleus. Il y a des rajouts de clair par-dessus qui vont créer. Une espèce de fantôme, enfin c'est vraiment très intéressant. Et moi j'ai eu l'impression que il a certainement, mais c'est vous qui allez nous dire si mon intuition est juste ou pas, mais on a l'impression qu'il a construit sa peinture avec parce que la peinture, évidemment il y a des parties qui sont empâtées, mais ce sont aussi des choses qui sont des films en fait. Il peut y avoir beaucoup de transparence dans la peinture à l'huile, et on a l'impression que lui, qu'il a gardé cette façon de construire et de monter les coloris en aquarelle, et qu'il l'a adapté en fait après, enfin que ça l'a, qu'il a utilisé le même genre de procédé pour la peinture à l'huile. Peut-être oui, c'était un peu différent de ce qui se faisait.
C'est sûr que c'est un peintre de la matière, de son matériau. Bien sûr, c'est un peintre qui peint des images, comme on le fait à son époque, mais manifestement, il aimait se coltiner la matière, et ça a évolué au cours de sa vie, de sa carrière, jusqu'à ses tableaux extraordinaires de la fin des années 1840, où on a une espèce d'alchimie, de pâte extraordinaire, grattée, projetée, enfin vraiment avec une modernité stupéfiante qui lui vaut d'ailleurs des malentendus et des anachronismes par rapport à l'art moderne, parce que ces tableaux n'étaient pas connus. Donc on les revoit aujourd'hui avec nos yeux modernes, mais évidemment c'était pas le cas au milieu du 19e siècle. Et c'est un artiste qui en effet possède vraiment son médium, ses médiums, disons, l'aquarelle et la peinture à l'huile, très jeune, et il va les pousser dans leur dernier retranchement. Je pense qu'en effet, on présente une aquarelle, par exemple, qui s'appelle L'épave. Je crois que c'est un titre qui a été donné au 19e siècle. C'est deux taches, une tache rose, une tache noire, qui se mêlent comme dans un zaouki. C'est absolument magique. C'est pas une image, c'est juste un jeu de matière sur la feuille. C'est tout à fait fascinant. Il fait ça en 1820, enfin, au moment où certains peignent comme David ou Delacroix. Là, on est vraiment dans un autre univers.
Turner traque le soleil. Il est joli aussi le regard posé par la peintre franco-danoise Eva Nielsen sur cette peinture de Turner.
Il traque délibérément le soleil. On a l'impression sans cesse qu'il traque la lumière. C'est même très présomptueux, cette volonté du peintre d'aller à la source même de la lumière. C'est quelque chose, c'est être plus fort que la lumière même. Et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre en peinture. On bouge très vite une toile. Donc c'est la gestion de la strate lumineuse est un élément fort de Turner que j'admire particulièrement. En plus, je crois que Antonioni avait dit « je voudrais faire un film sur la méchanceté du soleil ». C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez Turner, ce désir d'aller gratter la toile ou d'aller gratter le papier. Au-delà même de son motif, il nous parle de la peinture même et de la couleur même. Et d'ailleurs, c'est très visible quand on regarde ses aquarelles ou quand on regarde ses peintures, c'est de voir à quel point il essaye de creuser cette couleur, qu'il essaye de, quelque part, dépasser même cette couleur. Il essaie d'aller au plus loin dans cette couleur, et c'est quelque chose qui, je trouvais, très intéressant dans son travail.
Voilà, on parlait des 1500 odeurs avec lesquelles vous travaillez, Julien Raskinet. Là, on a cette palette de couleurs presque infinie qu'utilise Turner. C'est assez marquant, hein, visuellement aussi.
Oui, alors oui, nous on a donc 1500 matières premières, donc ce qui laisse un nombre de combinaisons qui est absolument incroyable, parce que c'est vrai que en mettant les mêmes matières premières, ce sont les dosages qui vont changer la note également. Par exemple, quand on pense que la rose et le géranium sont composés à 98% des mêmes molécules, mais l'organisation chimique de la nature fait qu'elles ont des odeurs différentes.
Et Turner, Pierre Curie, oui. il a combien de couleurs?
Oh, les artistes travaillaient avec quand même moins de pigments que vous en avez dans vos petites fioles. Ils travaillent avec une dizaine de pigments, en fait. C'est assez pauvre jusqu'au 19e siècle, parce que on entendait cet extrait du film où on parle du jaune de chrome. Voilà une nouvelle couleur. La chimie a complètement révolutionné la production des pigments dès les années 1830. Donc, il a pu utiliser certains de ces nouveaux pigments. Nous montrons d'ailleurs une petite mallette contenant ces pots de couleurs. On est vraiment là avec Turner à la charnière de deux mondes. On est encore au 18e siècle, donc avec un travail de l'artiste qui est très très artisanal. Il y avait toute une préparation à faire, des supports, des pigments, etc., des liants. Et puis bientôt, au milieu du 19e siècle, ce sera l'industrialisation de toute la production des matériaux de la peinture, et ce sera complètement autre chose.
Est-ce qu'on peut dire que Turner a aussi élaboré une théorie du paysage, contredite d'ailleurs par la suite
Oui, ça l'amusait beaucoup. Il a produit des livres, des libères, un peu à l'imitation d'ailleurs de Claude Gelée, en classifiant les types de paysages selon ce qu'ils représentent, la montagne, la forêt, etc. C'est amusant parce qu'il appartient vraiment aussi à cette génération qui sont complètement influencées par l'encyclopédisme et les académies. Il faut classer, savoir, connaître, que chaque chose ait un nom. Donc ça, pour ça, il appartient vraiment bien à son époque.
Eva Jospin, et vous, en 2020, vous n'avez pas cette tentation-là de classifier, théoriser votre art ?
Non, je pense qu'on est un petit peu sorti de ce moment. C'est vrai que c'est complètement une autre vision du monde. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait des débats entre la couleur et le dessin, enfin des choses. Les gens qui faisaient un métier essayaient de définir en même temps leur métier. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'être des théoriciens de leur pratique pour la faire évoluer, pour la transmettre, avec des côtés extrêmement positifs et des côtés aussi très rigides qui ont volé en éclats ensuite au 19e et au 20e siècle. Mais ça n'est pas inintéressant. Il faut comprendre là-dedans, pour moi, une certaine forme d'obsession de ce à quoi on travaille. Et je trouve ça touchant de voir que certains artistes ont eu envie d'écrire des traités qu'on n'aurait pas envie de lire aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des artistes contemporains qui ont beaucoup écrit et on adore leurs œuvres, on n'a pas forcément envie de les lire. Hein, donc voilà.
C'était des attentes aussi de l'académie, des académies qui attendaient d'un artiste qu'il soit théoricien, intelligent, qu'il publie, qu'il écrive, qu'il fasse des conférences à l'académie, etc.
Oui, mais en même temps, sur ces fameuses ébauches que vous avez évoquées ensemble, elles étaient moins scientifiques ou elles visaient moins à ordonner que, dites-vous, à exprimer des humeurs, une atmosphère sur le moment.
Oui, c'est aussi une des sources du malentendu avec l'origine de l'impressionnisme, parce qu'on lui a mis sur le dos, en quelque sorte, cette espèce d'invention de peindre des impressions devant un paysage. Mais évidemment, la démarche est complètement différente. Encore une fois, Turner, c'est un romantique, c'est quelqu'un qui s'exprime à travers sa peinture, alors que... Je ne veux pas être méchant avec certains impressionnistes, que je ne citerai pas, mais il y a une démarche un peu scientifique, un petit peu froide sur l'idée de peindre à différentes heures du jour un objet, etc., qu'on observe la décomposition, la recomposition de la lumière sur tel ou tel objet. C'est pas du tout la démarche de Turner. Je pense qu'il recherche vraiment, au fond de lui, des sensations qu'il recrée dans son atelier.
Merci beaucoup à vous, Pierre Curie. Exposition Turner à voir à Paris actuellement au musée Jacquemart-André. On aurait dû vous recevoir juste avant le confinement et puis paf, là encore arrêté dans cet élan. Du coup, l'exposition durera jusqu'à quand ?
11 janvier,
jusqu'au 11 janvier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus avec nous. On peut autour de cette grande table d'été, on peut retrouver votre échange, votre dialogue, votre avancée vers cette création commune dans la revue Née, qui vous a assemblé, fusionné dans son dernier numéro. Et vous serez, vous, Eva Jospin, aussi à l'abbaye de Montmajour, près de Arles, cet été, pour y exposer votre cénotaphe. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Il est 13h50 sur France Culture, l'heure pour vous de retrouver un voyage, la Seine et nos amours. Avec le réalisateur Vincent Deck, François Sureau, l'auteur de L'or du temps, remonte la Seine chaque jour. Aujourd'hui, épisode 5 avec Chrétien de Troyes.
Après avoir médité devant la maison du grand Rachi à Troyes, nous sommes à présent, par une canicule écrasante, rentrés dans l'église Saint-Pantaléon. Moins par piété, je dois l'avouer, que par souci de trouver un peu de fraîcheur. Et c'est dans cette église que je voudrais évoquer ce qu'on appelle la matière de Bretagne, le conte du Graal, qui a été connu chez nous par Chrétien de Troyes, qui est le deuxième grand auteur en langue française de cette région. On rêve qu'on pourrait s'asseoir ici, par exemple, et lire le Perceval, qui est pour moi l'un des plus beaux livres de la matière de Bretagne. Vous vous souvenez du Perceval quittant la cour du roi Arthur. Perceval est accueilli dans un château, le château de Gornemont de Gorhaut, un bâtiment parfait, et il y reçoit de nombreux enseignements, et d'abord celui de se taire. Cherchant le manoir de sa mère, Perceval rencontre deux hommes en train de pêcher dans une rivière. On ne sait pas si ce sont des poissons ou des hommes qui veulent prendre, comme dans l'Évangile. Et l'un des pêcheurs est un roi qui invite Perceval à sa table. Il va dîner à la table de ce roi inconnu qu'on appelle le roi pêcheur. Une lumière étrange baigne l'immense pièce et au cours du dîner passe un cortège avec un homme tenant une lance dont la pointe du fer saigne et une jeune fille qui porte la coupe du Graal. Et se souvenant des enseignements qu'il a reçus, Perceval ne demande aucune explication. Il n'exerce pas sa curiosité. Il ne cherche pas à percer le mystère de la procession. Et c'est la raison pour laquelle tout, à partir de cet instant, lui devient étranger et indifférent, parce qu'il n'a pas voulu demander. Il appelle à l'aide, personne ne répond, il est difficile de s'armer seul, et en se conformant à la règle, qui était la règle du silence, Perceval a perdu jusqu'au désir de savoir et de connaître celui qui importe et celui à quoi il aurait désiré vouer sa vie. Le conte du Graal est un conte magnifique parce que, au fond, de même que l'Iliade et l'Odyssée sont les structures propres de tout roman, le Graal est aussi la structure à la fois de l'aventure individuelle et de l'aventure collective, de l'aventure politique, dans la mesure où nous cherchons notre salut individuel, quelle qu'en soit la forme, le bonheur, la gloire ou autre chose, et nous cherchons aussi notre salut collectif sous une forme religieuse ou sous une forme laïque. Et c'est la raison pour laquelle le Graal est si important pour nous, et c'est la raison aussi pour laquelle la figure de Chrétien de Troyes, qui a vécu ici, est une figure que nous pouvons méditer. Ce qui me fait plaisir en outre, c'est que dans cette remontée du cours de la Seine, nous sommes mis à l'école de ce peintre surréaliste dont je vous ai parlé, qui s'appelait Agram Bagramko et qui a poursuivi d'ailleurs par amour de la France, par amour de la peinture, par amour de ses lettres et même à la fin en s'engageant dans la résistance, dans l'histoire, qui a poursuivi une aventure de salut individuel et collectif qui lui était personnelle. Or, il se trouve précisément que Bagramko a médité sur le sens du mystère du Graal, au point d'ailleurs de lui donner des tournures un peu étranges. Et c'est ce dont je voulais parler maintenant avec notre ami du Canada, Edmond de la Mirande, le spécialiste de Bagramko que nous avons rencontré à Source Seine hier et que nous avons retrouvé ici aujourd'hui dans l'église Saint-Pantaléon et qui va nous dire un mot des célèbres esquisses du Graal de Bagramko que pour ma part je n'ai jamais vues.
En effet, Bagramko était extrêmement lié au conte du Graal. C'était quelqu'un qui avait le goût de l'au-delà. Il avait une angoisse permanente du temps qui passe, donc pour lui le Graal c'était toute sa vie. Il a d'ailleurs fait 12 esquisses du Graal. Ces 12 esquisses sont exposées d'ailleurs à Vancouver, là où j'enseigne. Et c'est très amusant parce que les premières sont très conventionnelles. C'est-à-dire que dans les premières, le Graal ressemble à une coupe en bois, un peu comme dans Indiana Jones. Et au fur et à mesure, elles deviennent de plus en plus modernes. Donc à la fin, c'est drôle parce que c'est mon collègue, mon confrère, Jules Monange, qui lui aussi enseigne à Vancouver, qui m'avait donné sa théorie, comme quoi Raymond Lévy, le célèbre dessinateur de la bouteille de coca, s'était inspiré de la 11e esquisse du Graal de Bagramko, et non du corps d'une femme.
Écoutez, je suis saisi, je vais devoir faire un effort intellectuel pour chasser l'image du corps de la femme et de la bouteille de Coca-Cola de Raymond Lévy à l'intérieur de cette église et revenir à ce qui a été la source principale d'une partie de l'œuvre de Bagram Co, comme de nos rêves d'ailleurs, qui est le Graal. Le Graal nous fascine en réalité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est également le thème de l'immobilité, parce que le Graal, c'est à la fois ce qu'on va chercher, et c'est en même temps toute la matière de Bretagne, tout le conte du Graal est baigné par l'idée de l'immobilité. La suspension du temps est un des aspects les plus étonnants de tous ces livres. C'est une suspension qui peut être dictée par l'amour, mais aussi par le vide du cœur, ce que les auteurs mystiques appellent la désolation qui empêche l'homme de prier. Et de même, tout est à l'aune de cette opposition entre le mouvement et l'immobilité qui existe dans la peinture de Bagram Co, qui existe dans le surréalisme, qui existe évidemment dans le roman de manière générale et spécialement dans les contes du Graal. La forêt du cycle du Graal, celle que nous avons traversée à plusieurs reprises pour venir ici, est à la fois l'espace de l'aventure dans le mouvement et celui de la perfection dans l'immobilité. L'ermite, par exemple, l'ermite y compris l'ermite religieux ou l'ermite de type Merlin, est aussi celui près duquel le temps se dissout. On ne fera pas pour autant, et c'est là où le rapprochement avec les surréalistes, que la Mirande a longuement décrit dans ses thèses, est intéressant, on ne fera pas pour autant de Chrétien de Troyes, l'auteur du Graal, un mystique. Le Graal spirituel, le Graal catholique, entre guillemets, viendra beaucoup plus tard avec la quête anonyme, la quête du Graal, que Gilson a décrite comme le roman de la grâce et qui a dû s'apporter à l'influence nouvelle de Saint Bernard. Mais du temps de Chrétien de Troyes, c'est le Graal, c'est l'homme, sa conduite, ses actions, et rien d'autre, dans un jeu de poète épris à la fois d'aventure et de psychologie. Chrétien de Troyes nous fascine aussi, non seulement parce qu'il est à l'origine, peut-être, d'une part de nos attitudes esthétiques, mais il nous fascine aussi pour une raison un peu plus originale. C'est le premier auteur, probablement, à avoir cherché son salut dans les lettres. Et en cela, on voit très bien comment les surréalistes ont pu à la fois l'aimer et le détester, eux qui voulaient faire autre chose que la littérature. Mais eux qui ont voulu aussi chercher leur salut dans une forme d'individuation presque romantique. Au fond, l'auteur du premier roman français, qui est presque inconnu, personne ne sait exactement qui était Chrétien de Troyes. Des centaines de livres se sont penchés sur sa destinée, sans trop en savoir. L'auteur de ce premier grand roman français, et qui est un inconnu, est aussi le premier auteur qui a essayé de se faire connaître par lui-même. Vous savez que le texte médiéval, à ses débuts, ne comporte aucune signature, que le Verbe de Dieu est seul créateur, et qu'au fond, l'auteur est le collectionneur de fragments de ce Verbe, et qu'il serait assez malvenu qu'il mette son nom dessus. D'ailleurs, tous les artisans qui signent par des croix sur les piliers, comme ici, des églises, ces auteurs de carnets ou de dessins qu'on appelle le maître d'eux, le maître du retable d'Isenheim, le maître du carnet d'esquisse de Budapest, dont on ne connaît pas les noms. Mais Chrétien, lui, De Ere Caenin, qui est son premier livre, ose divulguer son nom. Et c'est, au fond, le début du grand déplacement de la littérature médiévale. Chrétien de Troyes, qui est l'auteur de l'œuvre, est donc aussi une création de son lecteur. Et il faut que le lecteur le connaisse pour ce qu'il est. Et d'ailleurs, au fond, dans ses prologues, il faisait des petits textes qui ressemblaient à des dépliants publicitaires. Par l'auteur de, c'est celui qui a fait. Car par le nom, on connaît l'homme, dit précisément le conte du Graal. Et on ne connaît au fond le Graal que par son livre, et puis par les livres postérieurs, mais on ne connaît pas l'auteur autrement que par ce nom mystérieux qui est Chrétien de Troyes. On l'a imaginé, marchant à Troyes. On a glosé sur la signature de Philoména, qui est l'une de ses premières œuvres, parce que dans cette œuvre, il s'appelle Chrétien Ligois, ce qui pourrait signifier Chrétien le Goy, et donc paradoxalement Chrétien le Juif. S'il veut bien admettre qu'à l'origine, le terme de Goy désignait d'abord le juif converti. Et si l'on veut bien oublier, naturellement, une part importante de l'antijudaïsme d'époque du comte du Graal. À l'époque de Chrétien, Troyes était la ville du grand Rachi, celui dont nous avons parlé hier, l'un des maîtres de la première littérature française, écrite dans une langue d'oïl magnifique semée de tournures champenoises. Et au fond, à la fois enraciné et déraciné, ces deux écrivains de la pérégrination, celui de l'attente du Messie, celui de la recherche du salut par le Graal, auront tenu toute terre pour une terre étrangère. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aller visiter les lieux où ils ont vécu nous communique une telle impression de grâce et de légèreté.
François Sureau avec Vincent Deck. Chronique à réécouter sur franceculture.fr. Ainsi que cette grande table d'été, vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. Merci beaucoup à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour leur programmation. À Laura Dutèche-Pérez avec Mathieu Bellini aujourd'hui pour la préparation de l'émission. Alexandra Candy-Languet a réalisé cette grande table d'été avec Jean-Guilain Meige à la technique. Lundi, retrouvez Maëlys Bessery. Et également, à partir de lundi, toute une série Avignon, Festival d'Avignon, un rêve, ça commence lundi jusqu'au 11 juillet en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio. France Culture vous offre et vous propose des soirées exceptionnelles de lecture fiction. Soirée d'ouverture, ce sera la lecture de Girl de l'écrivaine irlandaise Edna O'Brien.